Ok, ce matin, première chose, on va prier. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour chacun qui est là. Merci pour ton amour et ta présence, ta grâce. On a besoin d'être conduit par toi, Seigneur. On a besoin d'expérimenter ta vie. De boire, Seigneur, de l'eau de l'Esprit, de la parole de Dieu. Oh, on a soif pour ça, Seigneur. Merci. Vivifie nos cœurs et entre dans ce message, conduis à roi ces paroles. Hébreux chapitre 12, verset 1. Ce matin, Hébreux chapitre 12, verset 1. Ok, on va lire. Nous, donc, aussi, puisque nous sommes environnés, merci, environnés d'un si grand nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et le mot clé ici, ou la phrase clé, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau. L'épître de Hébreux était écrit pour les chrétiens dans l'âge de l'Église, le début de l'Église. Et c'était écrit pour ceux qui retournaient. Ils sont en train de retourner dans la religion juive. Ils sont arrière-plan, ils sont juifs par origine. Maintenant, dans la nouvelle vie de la vie, de nouvelles dispensations, maintenant chrétiens. Et donc, les choses, ils sont en train de retourner et le but de cet épître est pour expliquer qu'en fait Jésus est, il est le meilleur sacrifice. En fait, il est l'accomplissement de tout que les Juifs ont expérimenté. C'est une image et maintenant c'est le vrai. En fait, c'est une application, un fulfillment, on peut dire, un accomplissement. Et donc, le chapitre 11 parle de les héros de la foi. Et c'est parle de le fait qu'ils ont vécu beaucoup de choses, pas faciles. Et maintenant, verset 1, vous êtes entourés par ces témoins. Le flambeau est passé à vous. Et donc, maintenant, avec cette image d'une concurrence athlétique, un événement sportif, il faut courir. C'est une image de la vie chrétienne. Il faut courir la course jusqu'au bout, à la fin de nos vies. Bien sûr, avec la grâce de Dieu, avec la présence de le Saint-Esprit en nous. Avec Dieu lui-même pour nous aider. Et ça, c'est la prémisse. Dieu est avec nous. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Dimanche passé, la grâce pour vivre, la grâce pour commencer la vie, pour continuer la vie et pour finir la vie. Donc, chaque message est positionné avec un deuxième, troisième, quatrième. Il y a toujours une suite. Il est toujours une continuité et une cohérence. Donc ici, pour les Juifs, arrière-plan juif, retourner dans la religion juive, avant la destruction du Temple et de Jérusalem en 70, l'année 70, ils ont retourné dans tous les sacrifices, toutes les choses nécessaires pour accomplir la loi. Et l'auteur a dit, écoute, vous avez retourné de quelque chose qui est mort. Maintenant, entrez de nouveau dans cette carrière, cette piste qui est préparée pour vous. Et donc avec cette image, nous avons aussi avec Paul, en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'à 27, cette image de courir, un boxeur qui fait le boxing, qui est discipliné dans son corps, l'athlète courir avec discipline. Nous avons ce passage aussi, qu'il faut courir la course, il faut finir bien. Et donc, quelle est la chose qui peut nous empêcher de bien courir? Les fardeaux. Et c'est ça on va parler ce matin. Sachant qu'il y a deux types de fardeaux. Deux types. Nous sommes formés pour apporter certains fardeaux. Bien sûr, on apporte des fardeaux dans nos vies. Mais je dis les deux types. Le premier, c'est le type qu'on est habitué à vivre avec. Et on ne peut pas se porter. Ça, c'est des fardeaux. On a pour naturellement, c'est-à-dire tous les soucis, tous les problèmes. Et on va parler de ça ce matin. Et le deuxième type est les fardeaux que Dieu donne. Néhémie, chapitre 1. Un fardeau pour Jérusalem. Néhémie, retourne à Jérusalem pour reconstruire les murs. Pour le temple d'être reconstruit afin que la vie religieuse et la vie sociale puissent recommencer à Jérusalem et en Israël. Donc, les prophètes, ils ont reçu un fardeau pour quelque chose ou quelqu'un. Et avec ce fardeau, peut-être Dieu va enlever le fardeau après un certain temps. J'ai un fardeau pour tous les hommes. Dieu donne cette fardeau. C'est pas moi avec une sentimentalité. Et donc, je prie pour tous les hommes, pour sa vie, sa santé. Et dans un certain temps, Dieu va peut-être enlever le fardeau et donner à quelqu'un d'autre. C'est pas pour la vie nécessairement. Mais, aujourd'hui, on parle d'un deuxième fardeau. C'est la chose qu'on apporte et Dieu dit, vous n'avez pas le droit d'apporter ça. Vous n'êtes pas fort en vous-même pour apporter ça. Par exemple, le chrétien a décidé il a décidé de faire un déménagement. Et donc, il prend le grand piano dans une pièce. Avec Priscilla, elle a dit, on va faire ça. Est-ce qu'on peut imaginer pour que Priscilla peut enlever apporter un grand piano? Je pense pas. Pourquoi qu'on pense que nous sommes capables d'apporter certains fardeaux? Et plus de ça, dans ce contexte, est-ce qu'on peut courir avec cette fardeau? Non. Et donc, ce matin, la première chose qu'on peut voir est dans la vie, nous sommes habitués. C'était ordinaire pour nous. C'était normal pour nous d'apporter des choses. Et Dieu dit non. Donc ce matin, on va parler de sept exemples des fardeaux, les poires. Et les choses que Dieu dit non. Tu ne peux pas. Pas nécessaire pour la vie. Je vais donner des fardeaux. Et vous avez la responsabilité, mais pas ces choses. C'est pas exhaustif. Vous pouvez probablement penser les autres aussi. Mais c'est juste pour donner une idée afin qu'on peut faire peut-être un constat nous-mêmes avec l'assistance, avec l'aide de le Saint-Esprit. Et dit, écoute Seigneur, pas besoin de ça. Le premier fardeau. On peut voir ça en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Les relations. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je vais arrêter là. Ok. Contexte. L'église de Corinthe, croyant, beaucoup de problèmes dans l'église. Paul, en train d'enseigner par le Saint-Esprit, il dit, un joug étrange. L'image de ça est deux bœufs, avec le joug, en train de labourer un champ. Donc, voilà. La terre est préparée pour s'aimer. Mais les deux bœufs doivent être, qu'est-ce qu'on peut dire, d'accord d'aller dans la même direction et probablement avec peut-être la même force, la même capacité. Donc, Amos chapitre 3, verset 3 parle d'être d'accord pour deux de marcher ensemble. C'est-à-dire, même vision, même direction. Donc, pour arriver à ce point, on peut apporter un fardeau pour quelqu'un et Dieu dit non, pas cette relation. Ok. Israël, l'Ancien Testament, le peuple juif, choisi et mis à part pour Dieu, pas parce qu'ils sont mieux, mais parce qu'ils sont choisis. Aussi, nous, on n'est pas mieux que les autres. Mais on a été choisis, on a dit, oui Seigneur, viens dans ma vie. Et donc, Israël, entouré par les autres peuples, idolâtres, c'est-à-dire aucun désir de connaître le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, notre Dieu aussi. Et donc un peuple qui sont là pour éloigner, pour séduire le peuple. La sexualité, la séduction dans l'Ancien Testament était juste un outil pour amener les peuples à idolâtrer, pas le vrai Dieu. Le contexte pour nous, chrétien ou pas chrétien, on peut avoir un mauvais faux joug. C'est un sujet délicat. Je ne peux pas vraiment approfondir ce point ce matin. Ce n'est pas le but. Mais c'est de savoir que si nous avons, et on parle beaucoup plus profond et beaucoup plus large de juste un mariage ou une relation entre une femme et un homme, on parle ici de les relations en général, les amitiés. Que si la vie chrétienne est une vie mise à part, sanctifiée pour Jésus-Christ, de choisir de marcher avec lui et d'assumer qu'on abandonne dans un sens nos propres droits. C'est-à-dire, c'est lui qui va choisir nos relations, pas nous-mêmes. Et on peut dire oui, mais on a le droit de faire des choses. Pour pour nous-mêmes. Et il dit, est-ce que tu voudrais marcher avec moi? Est-ce que tu voudrais savoir mon amour, la provision, le plan pour votre vie? Et on peut dire oui. Il dit, donc, fais confiance en moi afin que dans tous les domaines de ta vie, laisse-moi d'avoir le droit de veto, oui et non. Parce qu'en réalité, on va souffrir avec les fardeaux. Est-ce que je peux être le sauveur de Diego? Diego, il a des problèmes. Une relation avec un mauvais joug, avec un joug étrange, peut être une relation de dépendance. Je pense que je dois aller un peu plus loin dans cette pensée. Donc, voilà, on va arriver des autres. Une dépendance entre nous deux. Je dépends de lui, il dépend de moi. Ou il dépend de moi plus que je dépends de lui. C'est pas une vraie relation dans la vision et le regard de Dieu. Parce que chacun de nous, en 1 Corinthiens chapitre 3, doit être devant le Seigneur pour répondre à les choses que nous avons faites dans nos vies. Une récompense, pas un jugement comme ça. Et donc, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité dans ma vie. C'est-à-dire que si j'ai là pour Diego, oui, très bien, pour aider pour un temps. Mais le but de nos relations est toujours afin que Diego peut marcher devant Dieu lui-même et prendre responsabilité pour sa vie. Je ne suis pas son sauveur. Et c'est dans ce contexte que j'explique ça. La relation entre deux chrétiens, est-ce qu'ils sont pour aller dans la même direction? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils ont la même vision? Si pas, point d'interrogation, est-ce que c'est bien? On peut dire oui, mais ma vie, je peux choisir. Oui, mais est-ce que tu voudrais marcher avec Dieu? Et est-ce que tu voudrais supporter un fardeau que Dieu n'a jamais offert? Difficile, je pense, d'accepter. C'est pas quelque chose facile. Mais partie de la vie est de marcher avec les bons fardeaux. Le fardeau que Dieu donne. Et la première partie, le premier point est de comprendre que pour courir la course, il faut jeter certaines choses. Peut-être nous avons expérimenté ça dans nos vies, des relations qui sont plus que je donne et eux ils prennent et moi je sens vide. Vide et épuisé. Parce qu'il prend. Et je suis doux et humble de cœur et je suis là pour aider. Mais il faut dessiner une ligne et dire non. Pour aller plus loin, je ne peux pas. Et plus de ça, et je termine ce premier point. Diego, c'est une illustration hypothétique. Donc, imagine pas, c'est vrai. Diego, Dieu est en train de travailler dans le cœur de Diego. Si j'essaie de faire plus pour Diego avec une sentimentalité, peut-être j'empêche Dieu de travailler avec lui. En fait, je suis ennemi de Dieu. Je suis en opposition avec Dieu. Et donc, dans tous les cas, il faut être sensible à le Saint-Esprit. Est-ce que je fais le travail de Dieu? Où est-ce que je laisse Dieu à travailler et moi, je suis collaborateur. Je aide Dieu. Premier point. Donc, relation. Et dernière chose pour dire de ça, regarde la vie d'Abraham et Lot. Genèse chapitre 12. Lot, Abraham en train de partir. Genèse chapitre 13. Au revoir, Lot. Choisis le bon pas, moi, je regarde le Seigneur. Et quand Lot a parti, Dieu a parlé à Abraham. Pas avant. Intéressant, n'est-ce pas, de penser que Lot doit partir afin que Dieu veuille dire, finalement, Abraham, on va discuter. Soyons, c'est pas moi de dire des choses, c'est pour vous de gérer vos propres vies. Mais soyons sages avec nos relations. On ne peut pas apporter le fardeau de quelqu'un d'autre dans cet contexte. Deuxième chose, je pense que j'ai abordé ça déjà. Très bien. Le deuxième point est de ne pas porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Donc, bravo. On va aller au troisième point. Trop de responsabilité. Aucune délégation. Ça, c'est un fardeau illégitime. Exemple. Nous avons un fameux passage en Exode chapitre 18, versets 15 à 24. Contexte. Moïse dans le désert avec le peuple qui sont sortis d'Égypte. Je crois que c'est vers 2 millions, 3 millions de personnes. Beaucoup. Imaginons nous en train d'apporter nos propres problèmes. On a des problèmes dans nos têtes, on a des choses à faire après le culte, on a une vie et les choses bougent. Imaginons comment se passe si on commence à porter les fardeaux de 3 millions de personnes. Famille, les enfants, les femmes, les maris, et plus de ça, enseigner les Écritures. Moïse, il a pris cette responsabilité et son beau-père, Jethro, a dit, écoute, dans ce passage, il regardait tout ce que Moïse a fait. Jusqu'à la fin de le jour, en train d'écouter les problèmes de le peuple. Il dit, c'est pas bien les choses que tu fais. Il faut déléguer. Choisis des autres hommes responsables afin qu'ils puissent gérer des petites choses. C'est-à-dire de faire les jugements avec la parole de Dieu pour ses propres, pour les vies de ces gens. Et donc, de donner plus de délégation, le poids était un peu plus moins. C'est léger. Délégation. Déléguer les choses. Est-ce que vous avez, vous, un mari en train de porter tous les sacs de les courses, les commissions pour sa femme et il prend tous? Ça, c'est pas exactement délégation. Une femme qui prend toutes les responsabilités, son mari est sur le canapé. Ça, c'est pas délégation. Délégation, un chef dans un bureau qui fait tous, en train d'appeler un client, taper dans l'ordinateur, courir partout, et qu'est-ce que se passe? Les autres disent, on est là, déléguer les choses. Exemple, la vie chrétienne, délégation, nous avons des frères et des sœurs. On n'est pas les sauveurs de l'humanité. On est une famille. C'est-à-dire, il peut prier pour quelqu'un, elle peut prier pour quelqu'un. On n'apporte pas toutes les choses. Écoute, prie pour cette personne. Est-ce que tu peux visiter cette personne? Est-ce que tu peux aider cette personne? Est-ce que tu peux appeler cette personne? Délégation. Et c'est une question qu'on doit toujours poser à nous-mêmes. Et ces fardeaux, il faut toujours peut-être demander à le Seigneur un constat ponctuellement, parce que dans la vie, on va reprendre les fardeaux. Donc, constate avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que j'ai repris les fardeaux de ça? Est-ce que je dois rejeter? Délégation. Procrastination. Wow! procrastination. Est-ce que, oui, je pose la question, est-ce qu'on est les procrastinateurs dans l'assemblée? Mais procrastination, de prendre pas une décision, mais mettre la décision à faire après, un délai. Et donc, le lourdeur de, il faut que je fasse dans un moment, mais maintenant, je pense pas. Choisis, décidez. Faire, prendre les décisions au bon moment. Ok, Seigneur, je prends ça. C'est la vie chrétienne. Le Seigneur veut, dans un moment, il va donner une sagesse, il va donner une grâce pour décider et pour assumer les conséquences. Donc, prends les décisions. Mais je dois attendre jusqu'à le bon moment. Non, les bonnes conditions. Non, choisis maintenant. Fais-le. Attends pas. Parce que ce moment de idéal, les tas de choses parfaites ne vont jamais arriver. La vie est dynamique, se bouge. Tu ne peux pas avoir l'appartement propre, nickel, tout le temps. Quelqu'un va jeter quelque chose, il va dire des choses sur la terre, voilà, dans le sol. C'est la vie. Comme Christian a parlé ce matin, Proverbe 14:4. Si vous voulez un musée dans vos appartements, mettez pas les êtres humains. Parce qu'on suit les choses très rapidement. Ce n'est pas un musée, la vie n'est pas ça. La vie est dynamique. On va laisser les choses tomber. Ah, mince, c'est ça. Mais c'est à la vie, on ne peut pas être rigide dans nos vies. Procrastination. Sujet pas édifiant. Point numéro 5. 5. Est-ce que ces choses parlent ce matin? Est-ce qu'ils sont... Voilà, super, ok. Sujet non édifiant. Wow! 1 Timothée chapitre 1, verset 4. 1 Timothée 1, verset 4. Donc, Paul... pasteur, en train de parler d'un jeune pasteur, son disciple, Timothée. Ok, il a dit, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. En fait, c'est un gaspillage de temps. Il faut être informé. C'est bien de lire. C'est bien d'avoir un, qu'est-ce qu'on dit, general knowledge en anglais, une connaissance générale de les choses du monde. C'est bien de lire l'histoire, culture générale. Ça, c'est le mot que je voudrais dire. On doit être informé. On n'est pas dans une boule. Mais une sagesse de dire, ok, ça, c'est intéressant. La vie de Voltaire, c'était intéressant de lire ça. Avec le contexte d'être informé et voir, pas juste l'histoire, mais Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense dans cette histoire? Quelles sont les choses qu'on peut voir qui sont bibliques dans la vie de Voltaire? Les choses qu'il a semées, les choses qu'il a récoltées. Mais finalement, je dois chercher la vie de Dieu. Est-ce qu'on a soif? On a soif dans le sol ce matin? Dans le salle? Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va boire. On ne va pas rester déshydraté. On va boire quelque chose, un café, un eau. La vie chrétienne, c'est ça. Cherche l'eau de la vie. Cherche l'eau de la vie. Pas la connaissance. Connaissance, c'est bien, mais édifiant. Édification, c'est-à-dire pas encouragement avec les compliments, c'est-à-dire d'encourager quelqu'un dans le Seigneur, de grandir. Et c'est ça qu'on cherche. Et si on est toujours en train de discuter des choses non édifiantes, on va être, ah, j'ai besoin de boire l'eau de la vie. Donc cherche la vie de Dieu dans un désert aride, sèche, sec. Ça c'est le monde. Cherche pour cette vie qui sort de l'épui du salut. Donc, reste pas longtemps avec les choses non édifiantes. En train de avoir une conversation. Ok, conversation intéressante, mais peut-être on peut changer le sujet, on va parler de quelque chose d'édifiant. C'est évident. Évident, mais il faut appliquer, il faut vivre. Donc le Saint-Esprit va nous conduire. Merci Seigneur. Mauvaise prioritaire. Point numéro 6. Mauvaise prioritaire. Il y a une mauvaise réputation pour Matt. Luc chapitre 10, versets 38 et 42. Luc chapitre 10, versets 38 et 42. Marie a choisi le bon pas. Assis, écoute Jésus. C'est bien. Marthe en train de tourner dans la cuisine et Marthe est un bon disciple. Écoute-moi, des fois on attaque, on utilise Pierre, Marthe, certains autres, Thomas, et on dit, oh, terrible, terrible les choses qu'il fait. Nous, je pense qu'on peut faire beaucoup plus pire. Donc, un peu d'humilité, je dis à moi-même de ne pas écraser Pierre et écraser Marthe. Parce que c'est un moment de la vie. Je vais passer par la même chose. Marthe a choisi de faire le multitasking, les multitâches. Un peu de tous en même temps. Et finalement, elle ne peut pas faire des choses bien. Et elle n'est pas arrivée de finir parce qu'on est en train de faire ça, en train de faire ça, en train de faire. Ou peut-être pire. Il ne peut pas décider de quelle chose il faut faire. Ok, Jacqueline, je veux que tu cuisines un gigot d'agneau. Appelle dans le téléphone, il faut faire ça au même temps. Il faut que tu frappes à la porte de le voisin, informe le voisin. Est-ce qu'avec ça et 5 choses plus que tu peux faire tout ça au même temps? Non. C'est clair, elle ne peut pas faire. Nous pouvons également pas faire. Choisis de faire une seule chose. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Quelle est la chose essentielle maintenant? Si on est en train de mourir, quelle est la prochaine chose qu'il faut faire? J'ai 2 semaines à vivre. C'est jusqu'à la couche du soleil aujourd'hui et je vais mourir. Ou je vais être enlevé. Quelle est la chose que je dois faire maintenant? Pas en 10 minutes, maintenant. Et ça, c'est la clé. Et le fardeau est d'essayer de faire tous ces éléments importants au même temps. Quand Dieu dit les choses nécessaires et là. Un fardeau, finalement, on va être épuisé et ne peut rien faire. Il faut faire une chose. Je vais ajouter quelque chose. Marie assise devant Jésus en train d'écouter sa parole. Maintenant, Jésus parle. Pas en 10 minutes, maintenant. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, le prochain enseignement est peut-être quelque chose qui va guérir et changer une vie pour l'éternité. Peut-être donner certainement la capacité de faire les autres choses après. Soyons ressourcés par la vie de Dieu, afin qu'après on peut bien servir. De nouveau, ce n'était pas juste Marthe, c'est aussi les autres. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Le dernier point, et merci pour votre bonne écoute, c'est super. La complexité de la vie et des pensées. Ok, nous avons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je vais expliquer. Corinthiens, Église de Corinthe, deuxième épître. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, donc les tactiques du diable, je crains, Paul en train de parler, je crains que vous, Corinthiens, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ephésiens chapitre 6, verset 5 parle de la simplicité de cœur. Colossiens chapitre 3, verset 22. Obéissance avec le crainte de Dieu. Simplicité, c'est simple. Actes chapitre 2, verset 46. Le moment que, je pense que c'est 2000 ou 3000 personnes sont sauvées à Pentecôte avec cette prédication de Pierre et le Saint-Esprit en train de descendre. Qu'est-ce que se passe? Ils ont passé ces prochains jours ensemble avec des activités, manger, écouter les paroles, prendre le Saint-Seine, louer Dieu ensemble, prier avec simplicité de cœur. Pourquoi que ça c'est important? Parce que la vie est compliquée, première chose. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est compliqué ou est-ce que c'est simple la vie? Plus compliqué chaque année. Deuxième chose, qui complique la vie? Qui amène la confusion dans le monde? Qui met, enlève les distinctions claires dans le monde que Dieu a donné? Qui amène de tourner le regard dans une autre direction? Qui séduit, qui tente, qui tue, qui accuse? Qui est l'accusateur de la brethren, de les frères et sœurs? Celui qui fait, qui amène la confusion. Parce que la vie de la foi est simple. Marche avec Dieu. Croire ce qu'il a fait pour nous. Acceptons le sacrifice de Jésus-Christ. Lire et écouter sa parole. Prier. Être encouragé. Il y a des choses qui sont simples. Marche par la foi. Pas par le vœu. Écoute chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, confusion, c'est compliqué ici. On est très exigeant, peut-être. Certains plus que les autres, mais on est exigeant. Hôtel, on arrive à un hôtel. Ok, on est là. Est-ce qu'il y a 5 serviettes? J'ai besoin de 5 serviettes pour la douche. Voilà, un pour là, un pour là, un pour la tête, un pour là, 5, voilà. Est-ce que 5? Non, un pour les pieds aussi. J'ai besoin de 2 capsules de café et le chocolat suisse, s'il vous plaît. Laisse ça. Voilà, est-ce que je vais avoir 2 bouteilles de l'eau et l'eau valsa, pas Pellegrino? Ok, je viens pour manger un repas. Ok, est-ce que vous avez des choses là, ça, ça? Non, je mange pas ça, je mange pas. C'est pas de, si on est intolérant, je parle pas de ça. Je pense que exigence, simplement exigence. Oui, mais je peux pas faire ça, je dois être assis dans cette chaise. Non, pas cette chaise, cette chaise. Oh, voilà. Ça, c'est la vie exigence. Est-ce que le quoi? C'est-à-dire que c'est pas ma vie, mais sa vie sur moi, et c'est moi qui apporte mon propre croix. Est-ce que ça, c'est là, dans l'exigence? Non, pas du tout. Pas du tout humilité, non plus. La vie de simplicité est une vie de joie. Une vie de joie, une vie de simplement dire Amen, Seigneur. Oui, il y a certaines choses, mais merci pour tout ce que tu donnes. Je n'ai pas besoin pour le camembert dans le frigo. Je n'ai pas besoin de prendre British Airways pour aller à Londres. EasyJet, ça suffit. Pas besoin d'avoir la meilleure chaise. Pas besoin d'avoir l'eau quand je prêche. Voilà, je veux l'eau là. Non. Honnêtement, la vie est simple avec Dieu, parce que tout le monde va mourir, en réalité, si on n'est pas enlevé. On va être tous dans une boîte, n'est-ce pas, enterré. Donc, choisis comme vous voulez, mais simplement pour dire que ça, la complexité est un fardeau. La complexité est un fardeau et la complexité est là et là. Laisse tomber. Laissons-moi tomber. Laisse ces choses tomber. La vie, est-ce que notre Dieu peut donner tous? Est-ce qu'il peut donner au-delà que je peux imaginer? Et donc, pourquoi que je demande... Non. Je suis humble et doux de cœur. Il va donner tout ce que j'ai besoin. Ma vie est une vie légère avec Dieu. Et je peux courir très bien la route jusqu'au bout quand je jette ces choses. Et plus de ça, en train de courir, je suis un bon témoin. Un mauvais témoin est quelqu'un qui est « Amen Seigneur, mais j'ai si fardeau. Ouf. » Mais le Seigneur est bon. Oh. Ça, ce n'est pas un bon témoin. Un bon témoin, ce n'est pas de dire on est de vous rendre coupable. C'est simplement de dire « Laissons Dieu vous aimer. Laissons Dieu nous aimer. Laissons Dieu nous aimer. Recevons. » La grâce qui vient de Dieu. Reposons dans la grâce de Dieu. Ça, c'est la clé. Si on peut recevoir de lui, on peut jeter les autres choses. On ne peut pas garder les mains pleines. Il faut jeter certaines choses. Dieu va donner. Oh, le fardeau. Et laisse Dieu amener les fardeaux. Et être un peu avec le Seigneur. Ça, c'est nos vies. C'est une vie de la grâce. C'est une vie de repos. Et c'est une vie quand Dieu parle et on peut dire Amen, Seigneur, merci. Et écoute pas le diable. Ça, c'est notre voix. Que Dieu vous bénisse. Et on va prier. Merci, Seigneur. Pour le fardeau, tu donnes et doux, Seigneur, léger. Et c'est toi qui nous aides d'enlever et jeter ces fardeaux illégitimes. Merci Seigneur, ce matin. Merci Seigneur, pour tout ce que tu donnes, continuellement tu donnes, jusqu'à la fin de nos vies. Sois glorifié Seigneur, sois glorifié. Merci Seigneur. Bénis le reste de notre journée dans ton bon nom. Amen.